7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation, mais aussi aujourd'hui de la France. Avec vous, Natacha Polony, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Nous sommes la France chez Plon. Vous êtes journaliste, essayiste, également passé par la case prof de lettres. Vous figurez désormais sur la liste noire des déclinistes, mais vos lecteurs en redemandent. Objectivement, c'est vrai que Nous sommes la France, votre dernier livre, ne fait pas souffler un immense vent d'optimisme sur ce pays. Que vous qualifiez tout de même, c'est vous qui le dites, le pays est malade.
Hein. Mais ça, ce n'est pas du pessimisme ni du déclinisme.
On va en parler, c'est de la lucidité.
C'est de la lucidité, en revanche, c'est un livre plein d'espérance.
On va en parler, bien sûr, et avec vous, Jacques Julliard, également dans le studio des 7 milliards
bonjour.
De voisins. Bonjour, vous êtes historien, journaliste, ancien co-directeur de la rédaction du Nouvel Observateur. Vous faites partie de la grande famille également des intellectuels français et vous écrivez d'ailleurs surtout sur la politique, d'habitude, mais quoi de plus politique finalement que l'école en France. Votre dernier livre, L'école est finie, où vous réclamez d'ailleurs la dépolitisation de l'école. Alors, on ne sait plus très bien. On va justement en discuter. Une école, c'est vrai, accusée de beaucoup de maux. La baisse du niveau, l'ennui des élèves, la fabrique des inégalités, le découragement des enseignants. Et depuis les attentats de janvier dernier, un nouveau soupçon émerge. Et si l'école était à l'origine de l'incapacité à se sentir français, pas seulement pour les enfants nés de parents étrangers, mais aussi pour ces élèves grandis hors sol, dans la culture de la mondialisation. Voilà une partie de vos inquiétudes, Natacha Polony, que vous allez bien sûr développer dans l'émission. Alors, puisque vous appelez tous deux à une forme d'espérance pour l'école peut-elle redevenir une terre de rassemblement? Et si oui, comment, à votre avis? On est à 18 mois de l'élection présidentielle. Je pense que toutes les idées sont bonnes à prendre. Natacha Polony et Jacques Julliard, il y a sur Terre tout de même beaucoup de pays qui vont plus mal que la France, vous en conviendrez, qui cherchent à se ressouder, à se réconcilier, notamment après un conflit. Et pourtant, aucun pays ne semble associer autant l'école au mal-être de ses citoyens. À quoi ça tient, selon vous, Natacha Polony?
Mais au fait que l'école est intrinsèquement lié à la République. L'école est un des piliers de la République en France. C'est une spécificité historique. Les penseurs de ce régime politique qu'est la République ont avant tout conçu cette idée que c'est par l'instruction que l'on allait émanciper les citoyens et leur permettre d'accomplir leur rôle et de leur permettre de participer à la chose publique. Il faut relire Condorcet et ses 5 mémoires sur l'instruction publique. La puissance publique doit l'instruction au peuple, mais tout simplement parce que sans un peuple instruit, la démocratie, c'est la tyrannie des imbéciles. Et donc, l'idée de ces fondateurs, de ces pères fondateurs de la République, c'était le fait que l'instruction, on allait transmettre des savoirs universels qui allaient permettre à chaque individu de s'émanciper, c'est-à-dire de penser sans dépendre du jugement d'autrui. Et donc, d'accomplir leur rôle de citoyen. C'est en cela que l'école est cruciale dans notre pays.
Jacques Julliard, les Français, pour vous aussi, ont une relation particulière au savoir, à la transmission, y compris quand ça va peut-être, quand ça tourne à l'obsession.
Oui, mais ce que dit
Natacha Polony.
Natacha Polony est tout à fait exact. La République, la Révolution même, qui est à l'origine de la République, a été fondée sur l'idée, il y a eu raison de citer Condorcet, sur l'idée que on ne peut pas faire confiance au peuple si ça n'est pas un peuple instruit. Parce que le peuple, livré à lui-même et sans instruction, est capable, c'est tout le thème du populisme, est capable de se donner à ses pires ennemis. Et donc, l'éducation est consubstantielle à la liberté du citoyen. Et ça, on l'a vu dans chacune des révolutions. On a redit ça en 1848. Il y a un grand débat en 1848 où Louis Blanc, qui est un des pères fondateurs de la République française, dit le suffrage universel sans l'école, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça va profiter à la réaction. Et la Troisième République a dit exactement la même chose. Et c'est pour ça que les Français sont je ne dirais pas drogués à l'école, mais ils ont tendance à penser que c'est l'école qui peut modifier les structures mentales, que c'est le lieu où s'opère la construction du citoyen et même de l'individu tout court.
Et on va ajouter à cela, sans doute, le fait que c'est l'école qui a permis aussi de répondre à une, enfin, de garantir une promesse de la République, une promesse à sa base sociologique, c'est-à-dire les classes moyennes. La promesse de l'ascension sociale par le mérite. Il n'y a pas d'école républicaine sans méritocratie. Et le mérite, alors, il a été extrêmement remis en cause par la sociologie ces dernières années, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est finalement, eh bien, pour le pire, puisque parce que on l'a remis en cause, on a aujourd'hui une école qui a perdu son rôle d'ascenseur social. En fait, le mérite, on s'en aperçoit, je pense, aujourd'hui, est une fiction nécessaire. Mmh. C'est-à-dire que si on ne sélectionne pas sur un supposé mérite scolaire, c'est-à-dire une capacité à développer, à acquérir des savoirs et à les utiliser et à penser le monde grâce à cela, eh bien, on sélectionne sur d'autres critères qui sont des critères de naissance, qui sont des critères d'argent. Et c'est cela que nous vivons aujourd'hui.
Mais alors, oui, justement, dans ce contexte, quel est votre regard sur les réformes actuelles de Najat Vallaud-Belkacem qui s'attaque aux inégalités de naissance et surtout au manque de mixité sociale? On a là une dizaine de départements qui vont expérimenter une modification. S'attaquer au collège ghetto, par exemple, aux 10% de collèges ghetto en
l'école
France.
L'école n'a jamais été faite pour réduire les inégalités. Elle a été faite pour apprendre. La réduction des inégalités, c'est comme beaucoup des missions annexes qu'on a progressivement greffées sur le tronc fondamental.
Au fur et à mesure que les inégalités s'accroissent.
Elles étaient aussi grandes dans le passé, hein. C'est pas le problème. Elles étaient peut-être même plus grandes à certains égards. Et il n'y avait pas ce minimum d'égalité qu'a donné la prospérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tellement attendu de l'école que, à force de charger le baudet, on a oublié la tâche fondamentale. À force de dire que l'école est pour réduire les inégalités, on a oublié que la mission principale de l'école, c'est d'éduquer. C'est comme si on disait que les impôts ont pour but de réduire les inégalités. Non, la tâche première des impôts, des contributions, c'est de donner de l'argent à l'État pour les tâches qui sont les siennes. Alors, que ça se fasse dans l'égalité, c'est une modalité de la plupart de nos institutions. C'est vrai de l'école, c'était hier vrai de l'armée, je viens de le dire que c'est aussi un début de la fiscalité, mais ne mettons pas la charrue devant les bœufs.
Je dirais que l'égalité dans une école qui serait pensée comme elle l'était, comme elle a été inventée, comme l'école républicaine a été inventée, l'égalité, c'est un bénéfice secondaire. C'est-à-dire qu'en effet, c'est ce qui vient naturellement si la mission de l'école a été accomplie, c'est-à-dire si l'école a transmis les savoirs universels à tous les enfants. Et dans ces cas-là, si chaque enfant a pu acquérir ses savoirs, quelle que soit sa naissance, si l'école a fait son travail, alors se met en place naturellement un ascenseur social, puisque chacun a des armes qui viennent compenser les inégalités de naissance. Le drame, c'est que depuis que l'on a décrété que l'école devait garantir l'égalité, eh bien justement, on a cassé ce processus parce que on s'est privé de cet axe fondamental qui était la transmission de ses savoirs. Quand vous dites s'attaquer au collège ghetto, c'est bien. Ah oui,
ah,
mais bien sûr.
Bien, j'ai posé la question.
Dites, voilà, non mais nous sommes tous d'accord que c'est bien. Le problème, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'on va le faire pour le faire réellement. La question, c'est comment fait-on. Or, l'école.
Mais comment enseigne-t-on bien dans un collège ghetto où les mères d'élèves elles-mêmes, quand des mères voilées à Montpellier disent, oh, bah ça serait quand même bien que nos enfants soient aussi avec des petits blonds. Hein, c'est le mot qu'elles emploient.
Bien sûr, mais elles ont raison. Mais pardonnez-moi,
ça simplifie le travail d'apprentissage ou pas d'ailleurs.
Évidemment, mais pardonnez-moi. Donnez-moi, mais il y a deux problèmes différents, là, ne mélangeons pas. Il y a une question qui est celle des ghettos urbains. que l'on a créée, où on a entassé des populations en ne se posant absolument pas la question des chances qu'on leur donnait de s'intégrer. Et c'est ça que disent ces mères. Elles disent, mais comment nos enfants vont se sentir français? Ils ne sont qu'entre enfants de Marocains. Voilà, et elles ont parfaitement raison. Et donc, ça crée une inégalité, évidemment. Mais là, ce dont nous parlons, ce n'est pas exactement ça. On n'est pas en train de parler de ghettos urbains et des conséquences scolaires des ghettos urbains. On est en train de savoir pourquoi l'école française est devenue, dans les rapports, dans les enquêtes internationales, l'école la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. C'est-à-dire que non seulement on ne comble plus les écarts de naissance, mais on les creuse. Un enfant de milieu défavorisé aujourd'hui a encore moins de chances, n'a rigoureusement aucune chance de s'en sortir. La question, c'est de savoir pourquoi et pourquoi ça empire justement depuis que l'école s'est fixée pour but de combler les inégalités.
Il y a en réalité...
Donc on raisonne de travers, finalement.
Il y a en réalité deux tâches fondamentales et deux manques fondamentaux. Ce qui relève de l'instruction, autrefois le ministre de l'Éducation nationale s'appelait le ministre de l'Instruction publique, et dans l'entre-deux-guerres, on l'a appelé, à juste titre d'ailleurs, ministre de l'Éducation nationale, il y a l'instruction et l'éducation. Et dans ces deux domaines, l'école nous déçoit, l'école est en dessous de sa tâche. En termes d'instruction, Natacha vient d'en parler, de fait, la France régresse dans les classements internationaux, mais de manière encore plus apparente. On s'aperçoit que le pourcentage d'élèves qui ne savent pas lire en arrivant en sixième ne cesse de s'accroître. Alors les chiffres varient, mais ils sont de l'ordre de 20%, ce qui est absolument énorme. Donc il y a là quelque chose, il y a un échec, je dirais, technique de l'école qui tient en partie seulement aux méthodes utilisées. On a fait fond sur des méthodes qui n'étaient pas efficaces. On a abandonné des autres qui ont fait leurs preuves. Et aujourd'hui, tous les spécialistes de la psychologie du savoir le disent. Bon, et l'autre tâche, c'est l'éducation. Et là aussi, l'échec est fondamental, c'est-à-dire que l'école ne forme plus, comme le voulait la République depuis sa fondation, on l'a rappelé, un citoyen. Et le fait, là je me réfère au livre de Natacha Polony, lorsqu'elle dit qu'il y a quelque chose de scandaleux, et oui, d'incompréhensible et de scandaleux à la fois dans le fait que non pas un djihadiste, parce que un système n'est jamais responsable de ses exceptions, mais lorsque des centaines, voire des milliers de jeunes gens à la sortie de l'école se tournent vers le djihadisme, ou ont de la sympathie pour le djihadisme, ça veut dire que là aussi l'école n'a pas rempli sa fonction. Et ça, c'est extrêmement grave.
Alors, vous parlez d'une faute technique de l'école et puis en même temps d'une école qui passe à côté de ses missions essentielles. Natacha Polony, vous fustigez une société prise au piège du bien-être, hein, le droit universel aux écrans plats. Ça serait finalement la carence culturelle qui provoquerait les conflits dans cette France aux prises avec le djihadisme et donc avec une responsabilité pour l'école. On en parle dans quelques instants, ça sera juste après Ton visage chez 7 milliards de voisins sur RFI en direct.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que s'éternisent les rêves dans ma réalité. Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. J'veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une
une planche de salut, vent du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Oh.
Visage chez 7 milliards de voisins sur RFI, Frérot de la Vega, et nous sommes en compagnie de Jacques Julliard, historien qui publie L'école est finie, Natacha Polony, journaliste essayiste, Nous sommes la France. Justement, Natacha Polony, finalement, vous fustigez cette société qui est prise au piège d'un certain bien-être, d'une recherche du bien-être, et vous dites finalement, si on a un problème avec le djihadisme aujourd'hui en France et avec les jeunes qui se tournent vers le djihadisme, ça vient d'une carence culturelle qui provoque les conflits, et donc à l'origine l'école.
Alors, à l'origine, l'école n'est pas fautive en tout, mais c'est une des dimensions du problème. Mais tout simplement, c'est nous sommes confrontés à une, on va dire, aux limites de notre société consumériste et matérialiste.
Ça, qui ne propose tous les pays du monde.
Oui, bien sûr. Mais je vais y venir. Qui ne propose aucun horizon à une jeunesse, aucune capacité de dépassement de soi. En France, pays éminemment politique, s'il en est, pays qui, dont l'identité repose sur une dimension culturelle et sur une dimension littéraire, cette question-là pose encore plus problème, d'autant plus que nous sommes un pays d'immigration depuis la fin du 19e siècle, que nous accueillons des jeunes gens venus d'ailleurs, qui n'ont pas forcément ce bagage, ce que Renan appelait le legs de souvenirs qui permet de s'intégrer à la communauté nationale, et donc si l'école ne le leur donne pas, eh bien ils ne l'acquerront pas. C'est tout cela qui se joue, mais la question de l'instruction dont parlait Jacques Juillard est aussi essentielle. Pourquoi ? Parce que on ne bâtit rien sur l'ignorance, sur les carences intellectuelles et culturelles. Et ça fait déjà une quinzaine d'années que des professeurs attirent l'attention sur le fait qu'ils sont confrontés de la part d'élèves à ce qu'ils appellent une forme de foi du charbonnier, à des limites dans la capacité d'appréhension du monde, des limites dans la capacité à distinguer savoir et opinion. Et tout cela, malheureusement, c'est un échec de l'école dont nous payons les conséquences. L'école, aujourd'hui, est un lieu d'obscurantisme. Je pense que c'est très grave.
Oui, ce sont des accusations surtout très graves vis-à-vis des enseignants.
Vous non, avez... pas vis-à-vis des enseignants. Enfin, mais pas du tout. Enfin,
c'est quand même ce sont les acteurs dans la salle de classe, non ?
Mais et alors, oui. Ils ne sont pas seuls. Enfin, vous avez des instructions. Écoutez, vous voulez tout simplement un exemple de stupidité actuelle. Là, depuis deux jours, on voit quels sont les exemples précis que le ministère de l'Éducation nationale propose pour les enseignements interdisciplinaires. C'est-à-dire l'interdisciplinarité, on est tous d'accord, c'est formidable. Il s'agit de croiser les savoirs, il s'agit de dire que quand on fait de l'histoire, il faut aussi connaître la littérature, etc.
À condition d'être passé par les disciplines.
Exactement.
Parce qu'il n'y a pas d'interdisciplinarité fondée sur des disciplines qui ne sont pas un minimum assimilées par des individus.
Nous sommes entièrement d'accord. Et la preuve de ce que vient de dire Jacques Juillard, c'est justement les exemples précis que propose le ministère. Par exemple, de croiser les lettres et les sciences et vie de la Terre pour proposer un sujet aux élèves. Gargantua, Emma Bovary ont-ils un régime alimentaire équilibré? Voilà un sujet qui va nous sortir de l'obscurantisme. C'est formidable.
Donc vous écrivez, c'est bien la carence culturelle qui provoque un conflit, hein, non pas du fait d'une opposition entre civilisations qui ne sauraient se rencontrer autour de valeurs universelles, mais bien du fait d'une radicalisation religieuse liée à la déstabilisation des sciences humaines par des sociétés humaines, par l'émergence d'un modèle globalisé destructeur des spécificités culturelles.
Ouais. Mais oui, je ne crois pas.
Partout dans le monde, les sociétés sont déstabilisées.
Mais bien sûr. Bien entendu. Et en France, ça prend cette forme-là, c'est tout. Mais évidemment qu'il y a, et c'est le Olivier Roy, spécialiste de l'islam, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle La Sainte Ignorance, qui expliquait que toutes les religions actuellement vivent cette forme de découplage entre culture et religion qui pousse au sectarisme.
Et je voudrais revenir un tout petit...
Alors, on va y revenir juste après le flash, hein, si vous le voulez bien. Et puis surtout, on va parler de cette jeunesse grandie hors sol, hein. Élevé hors sol comme les tomates, hein, c'est bien, vous comparez les jeunes à des tomates, Natacha Polony.
Mais malheureusement, on leur fait ça et je trouve ça honteux.
On en discute juste après le flash, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus de 3 minutes sur RFI, 7 milliards de voisins avec Natacha Polony et Jacques Julliard en direct. Restez avec nous, les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
bienvenue si vous nous rejoignez. 7 milliards de voisins en direct du lundi au vendredi sur RFI. Et le vendredi, nous parlons plutôt davantage d'école, d'éducation. Aujourd'hui, en compagnie de Jacques Julliard qui publie « L'école est finie » chez Flammarion. D'habitude, vous êtes un analyste, vous êtes historien, mais vous êtes surtout un analyste politique. Natacha Polony aussi, d'ailleurs, même si vos premiers amours, c'était des livres sur l'éducation. Vous publiez « Nous sommes ».
10 ans de journalisme sur l'éducation.
Exactement. « Nous sommes la France » aujourd'hui. Alors, c'est un livre évidemment beaucoup plus large sur le malaise français. Deux réflexions d'ailleurs, tous les deux, sur le mal-être français. Vous appartenez à des générations extrêmement différentes, hein, près de 35 ans vous séparent. Natacha Polony, vous disiez juste avant le flash, finalement, l'appel des jeunes, les tentations des jeunes vers la radicalisation religieuse, vers le djihadisme, vient d'une carence culturelle et d'un vide existentiel aussi dans une société de consumérisme, bon, qu'on retrouve partout dans le monde, mais la France, la société française serait plus vulnérable parce qu'elle aurait une école plus cassée finalement, c'est cela, pour terminer sur ce point-là avant que Jacques Julliard ne vous réponde.
Parce qu'elle a une école qui a été abîmée et parce que l'école est en France l'un des piliers de cette communauté nationale, sans laquelle évidemment tout part. C'est-à-dire nous ne sommes pas une communauté nationale, si tous ensemble nous ne sommes pas la France, nous ne sommes que des individus posés les uns à côté des autres et risquant de se laisser aller à la guerre de tous contre tous. Mais c'est au sein de l'école que ça se joue. Et Jacques Julliard disait, et je vais le laisser développer ça, que la différence entre savoir et opinion est au cœur de cette problématique.
Oui, nous parlions des méthodes de l'école et de l'échec de ces méthodes. Je n'entre pas dans le détail, je voudrais simplement souligner quelque chose. C'est que aujourd'hui, de plus en plus, la pression du ministère et des autorités pédagogiques consiste à transformer la classe en un forum. C'est-à-dire que il s'agit moins de transmettre un savoir que d'échanger des opinions. Or, quelle est la conséquence? C'est que si vous échangez des opinions, les opinions les plus fondées en savoir, en scientifiquement, si vous voulez, ou rationnellement, d'une manière plus modeste, et les opinions qui relève le plus de la croyance, du racontard, de la paresse d'esprit, sont à mettre sur le même plan. Si au lendemain des événements, on met sur le même plan, des événements de janvier, on met sur le même plan l'opinion selon laquelle l'école est l'école de la démocratie et la démocratie est un régime pour tout le monde. Et puis, l'opinion des djihadistes, qui est celle que vous savez, ou qu'ils développent à leur manière, à savoir cette espèce d'immense ressentiment contre l'Occident, eh bien, évidemment, l'école n'est plus rien du tout. L'école a cessé de, non seulement de remplir sa fonction, mais elle a aussi cessé de faire prévaloir la raison sur la déraison, le savoir sur l'ignorance, etc. Donc, ça va bien au-delà des querelles sur les méthodes globales dans l'apprentissage de la lecture.
J'ajouterais que se révèle dans ce mouvement une forme de bienveillance compassionnelle assez immonde vis-à-vis de la jeunesse. C'est-à-dire que l'absence totale d'exigence actuellement dans l'école est un mépris complet pour les enfants. Parce que le plus grand respect qu'on puisse avoir pour eux, c'est de les nourrir intellectuellement et c'est de savoir qu'ils sont capables de beaucoup et qu'ils sont capables notamment d'engranger énormément de connaissances et de les employer. Or, quand on voit tous les discours qui aujourd'hui se font entendre sur l'idée qu'il ne faudrait pas que les notes traumatisent les enfants, que finalement la chose la plus grave, c'est que les professeurs ne soit pas assez bienveillant, eh bien, c'est du mépris.
Mais alors justement, simplement, sur les notes, sur les classements, sur tous les deux, vous adorez les prix d'excellence, etc. Jacques Julliard, vous dites qu'il y a des classements pour tout, il y a des prix d'excellence pour les vins, pour la cuisine, la gastronomie. Pourquoi il n'y aurait pas des prix d'excellence et des classements et de la compétition entre les élèves? Sauf que les élèves sont obligés d'aller à l'école et qu'on n'est pas obligé d'entrer dans la compétition, par exemple, gastronomique ou de l'œnologie. Mais c'est surtout
une compétition, c'est une émulation.
Une émulation, bon, d'accord.
Néanmoins, aucune étude scientifique en sciences de l'éducation aujourd'hui ne valide le fait que les enfants apprennent plus efficacement quand ils sont sanctionnés en permanence par
Il y a quelque chose qui sanctionne.
C'est pas validé scientifiquement. Vous dites qu'il y a un problème technique à l'école. Vous l'avez dit.
La validation, elle est simplement dans les résultats de l'école actuelle. Si vous voulez, je trouve incroyable que ces gens qui se réclament toujours de la science, de la psychologie, de la raison, des études, refusent que leur propre méthode appliquée depuis 30 ans soit également soumise à l'expérience.
Non, mais il y a des études américaines, anglo-saxonnes, qui n'ont rien à voir avec la politisation de l'école à la française.
Pardonnez-moi, mais...
Il n'y a pas à s'aligner sur les anglo-saxons, d'abord parce que, notamment dans le domaine secondaire, l'école américaine est d'un niveau extrêmement médiocre, et on n'a pas à aller chercher nos exemples, ni en Finlande, ni aux États-Unis.
Mais surtout, cette façon, en effet, de se parer des plumes de la science pour affirmer des choses qui sont parfaitement douteuses, on en a vu le résultat sur une question très simple, la question des méthodes d'apprentissage de la lecture. Moi, pour ma part, et comme beaucoup d'autres, ça fait des années que j'entends des professeurs, et des professeurs dont j'ai l'impression qu'ils savent plutôt de quoi ils parlent puisqu'ils ont expérimenté dans leur classe, me dire « mais la méthode syllabique est plus efficace, les méthodes semi-globales qui sont utilisées par 95% des instituteurs fonctionnent mal, ça fait des catastrophes. J'en ai vu qui ont testé, j'ai vu des professeurs de collège qui ont fait des enquêtes très précises pour savoir avec quelle méthode leurs élèves avaient appris à lire. Les résultats étaient sans appel. On me disait, mais pas du tout, ce n'est pas scientifique, mais rien du tout, mais rien du tout. Depuis 2-3 ans, on voit surgir des études des neurosciences. Il n'y a pas plus scientifique.
Ils sont venus dans cette émission d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, que la méthode syllabique est la plus efficace, et en particulier pour les enfants de milieux défavorisés. Bah, excusez-moi, mais il serait temps pour certains de considérer qu'ils se sont trompés.
Voilà. Écoutez, le professeur Dehaene, qui est au Collège de France, spécialiste de psychologie cognitive, a expliqué que le mécanisme d'apprentissage passait par, effectivement, la jonction syllabique. Et de ça, on a tiré strictement aucune conséquence. Cette école scientifique et le fait d'idéologues dont je ne mets pas en cause les intentions, mais qui sont fondées sur une vision purement, comment dire, en effet bienveillante de l'élève et pas du tout sur la science. On n'est pas là. S'il s'agit d'appliquer de la bienveillance, c'est pas l'école qu'il faut inventer. C'est des formes de rencontres,
garderies ludiques, de garderies, etc. Néanmoins, quand vous préconisez tous les deux donc de revenir à des méthodes qui ont fait leurs preuves, notamment pour l'apprentissage de la lecture, mais en histoire, pour revenir à votre intérêt pour la nécessité de léguer le roman national à tous les élèves, quelles que soient leurs origines.
Moi, je n'ai jamais parlé de roman national.
Bon, d'accord. Pour ma part, je parle de récit national, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Moi, je parle d'histoire nationale, c'est la même chose.
Est-ce qu'enseigner, par exemple, la chronologie en histoire, ça peut réellement donner le sentiment à des élèves de parents nés à l'étranger qu'ils ont une place dans l'ascension sociale si, par exemple, des élèves noirs ne voient jamais d'élus noir à l'Assemblée, ne voit jamais de personnes.
Ça n'a aucun rapport, pardonnez-moi.
Quel rapport avec la chronologie?
C'est ce dont ils témoignent la plupart du temps.
Mais ça n'a aucun rapport avec la question de la chronologie. Qu'il y ait une injustice fondamentale dans le fait qu'en effet la France a du mal à représenter l'ensemble de sa population à l'Assemblée, mais enfin pardonnez-moi, il n'y a surtout aucun ouvrier à l'Assemblée nationale. Donc la non-représentation... personne ne s'en plaint. Il n'y a plus de paysans à l'Assemblée nationale. Personne ne s'en plaint.
Ils sont nombreux à l'échelle nationale. Aussi,
oui, on les a éradiqués aussi, mais bon, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est une question de représentativité, c'est un problème, mais ça n'a strictement aucun rapport avec la question de la chronologie. Je ne vois pas en quoi un enfant, quelle que soit sa couleur de peau, pourrait se sentir mal parce qu'on lui apprend l'histoire de son pays. Quelle que soit la couleur de leur peau, ils sont français, ils sont les héritiers de cette histoire parce qu'ils vont vivre dans ce pays qui est le leur. C'est une question de patrimoine, c'est à eux.
Je vais vous raconter mon expérience. Comme enseignant, enfin d'un mot, j'avais des élèves de 5e. Et à un moment donné, je leur ai parlé de Charlemagne. Et j'aurais demandé ce qu'il savait sur Charlemagne. Et le plus dégourdi m'a dit, oh ben c'est juste après les hommes des cavernes. Alors je lui ai dit, c'est quand même un peu rapide. Il m'a dit, mais si, on nous a appris qu'il y avait les hommes des cavernes et puis on est passé ensuite à Charlemagne. Alors on a pensé que, je ne sais pas comment il s'est représenté Charlemagne, avec des os d'auroch ou de bison à travers la bouche, que sais-je. Toujours est-il, c'est que là aussi, la chronologie, ça n'est pas un but en soi, mais comme me disait un jour Fernand Braudel, qui est le grand ennemi, enfin qui passe pour le grand ennemi de la chronologie, moi si je me suis permis de ne plus faire de chronologie rigoureuse, c'est parce que je la connais, mais si je ne la connaissais pas, comment vous voudriez-vous que je parle de Philippe II?
Mais alors, là aussi, est-ce que la France n'est pas enfermée dans une bulle, dans la façon dont vous présentez les carences de l'école française? Comment font dans ces cas-là les petits Allemands, les petits Américains qui sont scolarisés dans des systèmes qui, franchement, ne brille pas par l'enseignement de l'histoire et des grands penseurs,
qui sont davantage
dans une école destinée à leur apprendre un métier, à s'insérer dans une économie.
Ni les Allemands, ni les Anglais, ni les Américains pour un modèle. Je ne vois pas pourquoi il faudra aller chercher nos modèles à l'étranger. Je ne vois pas pourquoi la France, qui est détentrice d'une culture, j'espère qu'on aura le temps de dire un mot de la littérature française, qui est fondatrice de non seulement de la culture.
Oui, n'allez pas dire aux Allemands qu'ils n'ont pas de littérature.
Mais de l'esprit républicain. Mais je ne vois pas pourquoi on nous oppose toujours des exemples étrangers qui ne sont pas des réussites, contrairement à ce qu'on dit.
C'est surtout, pardonnez-moi, c'est surtout qu'il y a là une conception purement utilitariste de l'école. Que d'autres sociétés développent cette conception utilitariste en estimant que l'école doit servir uniquement à apprendre un métier, très bien, ce n'est pas l'idéal républicain français qui, justement, estime qu'un enfant, d'où qu'il vienne, d'où que viennent ses parents, s'il est français, a pour patrimoine et pour héritage cette littérature française, ces grands auteurs dont parlait Jacques Juillard. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui permet de former la communauté nationale. Il se trouve que l'idée française de la nation, c'est une idée qui n'est pas politique, qui ne repose pas sur la langue ou sur la race, l'ethnie ou tout ce qu'on veut. Ça repose justement sur le mariage entre une volonté de vivre ensemble et un legs de souvenirs. Moi, je me réfère à la nation selon Renan. Ça implique que l'on transmette ce legs de souvenirs, ça implique que d'où qu'on vienne, on puisse avoir accès à cette littérature qui permet de savoir ce que sont les valeurs que nous avons en commun. Parce que cette littérature, elle porte ça. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui ne signifient rien si on n'en connaît pas la déclinaison. À travers les références qui étaient celles des révolutionnaires qui ont voulu cette devise, c'est-à-dire l'histoire ancienne, l'histoire grecque et romaine, puis tout l'humanisme, la Renaissance, les Lumières, et ensuite, après la Révolution, ça s'est perpétué avec Victor Hugo, avec Zola. C'est tout cela qui nous permet de penser une certaine idée de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.
Et c'est si vrai que lorsque progressivement, subrepticement, on substitue des textes sans aucune valeur exemplaire, sans aucune valeur culturelle, aux grands écrivains français, dans l'apprentissage de la lecture, c'est un effondrement intellectuel qui se produit. Lorsque on a cru malin de faire apprendre aux enfants à partir de notices pharmaceutiques ou d'arrêtés municipaux.
Oui, vous êtes énervé quand vous feuilletez les manuels scolaires, hein, si je comprends bien.
Ah oui.
Parce qu'on met sur le même plan de grands textes littéraires et des modes d'emploi.
C'est le confusionnisme le plus total. Alors que, tenez, le Parker, qui est, paraît-il, réactionnaire, c'est parce que on a appris un certain nombre de fables de La Fontaine, de poèmes de Victor Hugo, que on a des références communes entre nous.
Il y a des scientifiques qui vont vous dire qu'aujourd'hui il y a les disques durs pour ça.
Mais non, le disque, mais la culture.
Pardonnez-moi, mais le savoir nous transforme. C'est le fondement de la pensée humaniste dont nous sommes, enfin dont nous nous prétendons les héritiers. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose d'avoir un disque dur à côté et d'avoir en soi un savoir littéraire, un savoir historique qui nous permette de penser le monde. Tout cela n'a rien à voir. Bon. Et je pense que d'abandonner la littérature et de donner à lire sur des manuels d'apprentissage, enfin d'utilisation d'appareils électroménagers, et d'un mépris absolument monstrueux. Et ça prive les enfants de ce qu'il y a de plus essentiel, l'accès au beau.
Donc, si on vous entend bien, il y a un problème avec les manuels scolaires, il y a un problème avec la façon de concevoir les programmes, il y a un problème avec la façon de concevoir l'école en France. Il n'y a donc pas de problème enseignant en France aujourd'hui, pour vous?
Le problème enseignant est secondaire. Je pense que les enseignants auxquels moi je rends hommage, parce que vraiment ils font un des métiers les plus difficiles qu'il y a aujourd'hui.
Oui.
Parce que non seulement c'est un métier éreintant, ne croyez pas que les vacances, comme on dit, n'empêchent pas les enseignants d'être ceux qui sont les plus menacés, souvent dans leur vie intellectuelle et psychique, parce que c'est très dur d'enseigner. Mais au-delà de ça, si vous donnez aux enseignants la liberté et surtout des instructions qui sont simples, qui sont les apprentissages fondamentaux et les valeurs de la République. Je suis persuadé qu'ils feront très bien leur métier.
Vous pensez que ça peut suffire à redonner une forme de fierté et de légitimité pour les enseignants à une malheur où ils sont tout de même parmi les plus mal payés d'Europe?
Il y a 75%, les derniers sondages que je connaisse là-dessus, qui sont contre les réformes Belkacem.
Oui. Et donc les poursuivre,
surtout c'est l'institut des réformes. Mais ceci dit, vous parlez jamais du salaire des enseignants dans vos ouvrages. Bah, vous parlez pas aussi.
J'en parle dans tous mes livres sur l'éducation. Oui. Il se trouve que ce livre-là n'est pas spécifiquement sur l'éducation. Mais je rappelle dans chacun de mes livres sur l'éducation et dans chacun de mes textes sur cette question qu'en effet, on mesure aussi le respect qu'une société a pour le savoir à la façon dont elle paye ses enseignants et que les systèmes scolaires qui marchent le mieux sont ceux où les enseignants sont les mieux payés.
Mais vous parlez comme si finalement, est-ce qu'avec Internet le savoir à portée de clic pour n'importe quel enfant qui peut sortir son smartphone pendant le cours pour vérifier ce que dit l'enseignant, ils le font beaucoup.
Vous pouvez mourir ignare à côté d'une bibliothèque. C'est pas si vous voulez entre. Il y a toujours eu des données de savoir. Elles sont de plus en plus perfectionné, mais il y a toujours eu des données. Le savoir a toujours existé quelque part.
Est-ce que l'enseignant, avec cette déferlante Internet, peut enseigner aujourd'hui comme exactement il y a 50 ans?
Mais on n'a pas dit qu'il fallait... Non, pas du tout. On n'a absolument pas préconisé.
Quand même.
Ah non, jamais de la vie. Non, si vous lisez bien, jamais nous n'avons préconisé d'enseigner comme il y a 50 ans. Nous disons simplement qu'il y a d'abord certaines méthodes qui marchent et dont on peut vérifier qu'elles marchent, et ensuite que la question est celle du rapport que l'on a au savoir et donc de la fonction qu'on donne à l'enseignant et à l'école. Il s'agit pas de... Le problème n'est pas le passé contre le présent. Le problème, c'est d'imaginer qu'il y a autre chose de possible
donc
que
quoi,
le présent
vous
actuel
vous faites cohabiter le par cœur, la chronologie, Facebook, comment vous mariez tout ça?
Pardonnez-moi, mais actuellement, nous avons des élèves, et j'en ai vu, j'ai enseigné pendant 9 ans dans une fac, j'ai vu des élèves qui avaient accès, en effet, à tous les savoirs sur Internet, qui étaient incapables d'aller les chercher. Pourquoi? Parce qu'il faut un minimum de connaissances pour savoir où aller chercher et savoir ce qui peut être intéressant. Donc ce mythe de du savoir à portée de clic, c'est une façon de ne pas comprendre ce qu'est le savoir.
C'est à peu près comme si on disait qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre les langues étant donné qu'il y a des dictionnaires.
Évidemment.
Bon, le fait que le savoir existe et le fait que le savoir puisse être mobilisé par un esprit libre et rationnel sont deux choses complètement différentes.
Alors dans ce contexte, pourquoi Jacques Julliard dites-vous finalement que le bac, il faut le supprimer?
Oh, il faut supprimer le bac parce que c'est devenu un examen complètement bâtard qui d'une part est insuffisant même quantitativement pour valider les études secondaires et qui est insufisant pour orienter dans les études supérieures.
Et qui coûte cher de surcroît. Alors, vous le remplacez par quoi, alors?
Il coûte cher. Il coûte cher en argent, mais il coûte surtout cher en temps. Si vous voyez le temps qui est utilisé en France à vérifier des connaissances qu'on n'a pas acquises, c'est quelque chose d'effarant.
C'est pas contradictoire avec votre idée républicaine de l'école?
Pas du tout.
Vous le remplacez par quoi dans ces cas-là? Un diplôme national à valeur nationale?
Le baccalauréat n'est pas spécialement républicain. Il a été institué par Napoléon.
En tout cas, il est national. C'est un diplôme qui aura la même valeur partout.
Non, ce n'est pas vrai. Il n'a plus plus la même valeur partout, malheureusement. On sait très bien que les sélections sont faites avant le bac et que des jeunes gens, et que malheureusement, des jeunes gens qui ont leur bac dans certains endroits n'ont pas accès aux mêmes filières que ceux qui ont leur bac
ailleurs. Vous aussi, vous voulez supprimer le bac, Natacha Polony?
Disons que là où je rejoindrais Jacques Juillard, c'est dans le fait que le bac, dans l'état actuel des choses, ne signifie plus rien. Et je veux dire, là, on a des taux de réussite qui sont entre 86-87% pour ceux qui s'y présentent. Mais quand on le présente, pour ceux qui l'ont raté, quand on le présente une deuxième année, on atteint carrément 95%. Mais pourquoi pas 100%? Enfin, je veux dire, arrêtons cette mascarade. Non, je suis d'accord.
Mon ami
oui.
Luc Ferry, qui a été ministre de l'Éducation nationale, qui continue à très bien suivre ces questions, dit, maintenant, pour ne pas avoir le bac, il faut faire la demande écrite.
On arrive bientôt au terme de cette émission, si vous le voulez bien, Natacha Polony et Jacques Juillard. Vos propositions, peut-être dans quelques instants, pour les futurs candidats à l'élection présidentielle chez 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble.
C'est votre vie au quotidien.
Mmh. 7 milliards de voisins et la planète sépare.
Jacques Juillard, Natacha Polony, une mesure urgente et faisable pour le président qui sera élu dans un an et demi. Pour l'école.
Pour ma part, je dirais refonder un institut de la recherche pédagogique qui ne soit pas idéologue, mais qui évalue réellement ce qui marche et ce qui ne marche pas, et à partir de là, offrir toutes les potentialités de formation aux enseignants.
Ouvert sur la recherche anglo-saxonne internationale.
Mais surtout, commençons par...
Je sais pas, parce que Jacques Juillard a dit qu'il ne fallait pas regarder les anglo-saxons.
Enfin, on n'arrête pas de regarder...
Est internationale.
Excusez-moi, mais la langue française ne pose pas exactement les mêmes problèmes que la langue anglaise dans son rapport entre phonème et graphème. Donc, on peut faire toutes les études internationales qu'on veut. Je pense déjà, commençons par étudier en France les méthodes qui marchent.
Dédogmatiser, finalement, c'est ça?
Pour arrêter d'avoir des gens qui nous racontent n'importe quoi depuis...
C'est la mesure la plus urgente pour vous, pour l'éducation nationale.
Je pense que ce serait pas mal, oui.
Pour faire le point, pour savoir où on en est.
C'est une très bonne idée. Moi, j'en ai une autre qui est peut-être un peu plus générale, qui est de supprimer le ministre de l'Éducation nationale, raser la rue de Grenelle et mettre à la place.
C'est vrai.
Non, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. On manque de locaux pour les migrants, etc. On peut utiliser ces locaux-là. Non, ce que je veux dire, pour parler sérieusement.
Dégraisser le mammouth, alors, pour être moins révolutionnaire?
Il s'agit pas de ça. Il s'agit de donner à la direction de l'éducation quelque chose de durable, à l'abri de toutes les pressions politiques, de tous les tiraillements, de toutes les démagogies. Lorsqu'on voit ce qu'a fait Jules Ferry, eh bien, il était ministre, certes, mais il a été pendant 4 ou 5 ans un ministre inamovible, avec des pouvoirs à peu près complets.
Donc, depuis la Troisième République, il n'y a plus de courage politique pour l'éducation en France?
Ça dépend. Certains ministres ont eu du courage. Mais il est vrai qu'on est allé vers quelque chose de plus en plus politicien. Et que, moi, je propose, très sérieusement, de substituer au ministre de l'Éducation nationale un haut commissaire nommé pour 5 ans, choisi parmi des personnalités intellectuelle incontestable du pays, et rattaché directement au Premier ministre. Et au bout de 5 ans, je suis persuadé qu'on aura enfin une politique, en tout cas, il y a la possibilité d'avoir une politique cohérente et non pas ces zigzags continuels. Chaque ministre veut attacher son nom à une réforme.
Mais c'est assez iconoclaste, quand même, comme proposition.
Le problème, et vous avez raison, que chaque ministre veut sa réforme, mais que finalement, elles vont toutes dans le même sens depuis 30 ans. C'est-à-dire que droite et gauche font rigoureusement la même politique, qui est une politique qui est totalement utilitariste, je le disais, c'est-à-dire qu'il conçoit l'école comme un lieu où on va préparer des futurs consommateurs producteurs et absolument pas des citoyens et des hommes libres.
Et c'est comme ça que, à force de faire de l'utilitarisme, on a des enfants musulmans qui trouvent que tout ça manque d'idéal et vont chercher leur idéal du côté du djihadisme.
Alors quel serait le démineur providentiel dans un débat qui manque de courage politique et qui est sur un terrain miné là pour la présidentielle, selon vous, capable de, alors je sais pas, peut-être pas forcément d'adopter vos idées iconoclastes, Jacques Julliard, parce que enlever le poste de ministre de l'Éducation nationale pour le premier budget de l'État, ça c'est vrai que
c'est... Mais ça empêcherait bon. Pas d'avoir un budget aussi important, c'est pas la question.
Bon, alors le démineur providentiel. Le démineur providentiel, là, pour vous, ça serait
vous
qui,
voulez
alors
qu'on cite un nom?
Je sais pas.
Non, ben, c'est votre question.
Oui.
Pour l'instant, je n'en vois pas. Je vois que M. Juppé préconise les mêmes choses que M. Hollande, c'est-à-dire la politique Vallaud-Belkacem, que les autres ne se sont encore pas beaucoup engagés. Moi, je m'engage, sauf exception d'extrême droite, à voter pour le candidat qui mettrait en application les principes et les orientations des réformes que nous avons définies tous les deux depuis un moment.
Et nous, je suis d'accord, cher Jacques. Natacha Polony, il nous reste 10 secondes.
Mais 10 secondes, je pense que tout est dit. En effet, nous cherchons,
le
démineur
providentiel.
Mais il n'y en a pas pour l'instant, et c'est bien pour ça que nous sommes obligés, Jacques et moi, d'écrire des livres.
Eh bien voilà, vous avez donc encore une longue carrière devant vous. Lundi, 7 milliards de voisins. Comme chaque mois, c'est le rendez-vous des tchatcheuses pour commenter l'actualité. Nos voisines journalistes seront turques, norvégiennes et chiliennes. Merci à vous, Jacques Julliard. L'école est finie chez Flammarion, Natacha Polony. Nous sommes la France chez Plomb.